Change-nous, transforme-nous par cette parole. conclusion qu'il va décrire dans les versets qui suivent. Et comme je dis, jusque-là, la vie des aînés ne présentait rien d'extraordinaire. Et peut-être dans notre vie aujourd'hui ne présente pas grand-chose d'extraordinaire. J'ai l'immense privilège d'avoir vu Dieu travailler dans ma vie à bien des reprises. Vendredi soir, j'ai partagé mon témoignage avec un pasteur de jeunes qui était venu des États-Unis, qui était à Saint-Denis. Et il est vrai, alors que je lui racontais ce que Dieu a fait dans ma vie, je me suis rendu compte que oui, Dieu, il a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Quand je pense, c'est incroyable. Et bien sûr, c'est par Dieu que ça se fait, c'est sa main qui a conduit et qui a guidé. Mais très souvent, dans notre vie, on se dit, mais ma vie ne présente rien d'extraordinaire. C'est un peu le train-train tous les jours, et voilà, rien qui sort de l'ordinaire, rien de spécial. Et Esaïe était un peu dans ce cas de figure. Il ordinaire, il vivait pour le Seigneur, sûrement, mais bon, rien d'extraordinaire. Et là, Dieu est intervenu, et il a fait réévaluer. Il ne savait pas ce qu'il fallait. Il fallait que Esaïe réévalue sa vie. Et c'est là au verset 1, regardez, la première chose dont Esaïe parle, je lis, le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et voilà le point de départ. Ça commence avec Dieu. Esaïe a vu Dieu. Honnêtement, je ne sais pas comment expliquer cela. Est-ce que Dieu va dire à Moïse, plutôt, bien des années auparavant, l'homme ne peut pas me vivre, me voir et vivre. Donc ici, comment est-ce que Esaïe voit Dieu de ses propres yeux? Dieu l'a permis. Dieu l'a permis, c'est ce que nous appelons une théophanie, Dieu qui se présente sous la forme humaine avant son incarnation. Et ça commence avec Dieu. Le Seigneur, ici, c'est ce mot Yahvé, le Je suis, le nom de Dieu quand il s'est révélé à son peuple, son nom de l'Alliance. Et ça commence avec Dieu. Et Esaïe a vu Dieu. Quel privilège extraordinaire, n'est-ce pas? Cet homme qui vivait sa vie tous les jours, d'accord? Et puis Dieu le prend, et puis lui donne ses deux yeux. Et le voit Dieu. Et en quelque sorte, nous pouvons envier un peu Esaïe en disant, voir Dieu, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? De pouvoir voir Dieu de nos propres yeux. Ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? Qui ici n'aimerait pas cela? Moi, je l'aimerais. Et on peut dire, bon, Esaïe, il a un peu un plus sur nous. Il a un avantage sur nous. Oui et non. Parce que c'est vrai, Esaïe a vu Dieu avec ses propres yeux, mais quelque chose dont Esaïe ne disposait pas à l'époque, c'était la Bible. Mais Dieu se révèle dans sa parole. Et si nous prenons le temps de lire la parole, en fait, nous avons une richesse plus grande que ce que avait Esaïe. Et alors que Esaïe voyait Dieu de ses propres yeux là dans le temple, nous voyons Dieu avec nos propres yeux à travers les mots dans notre Bible. Dieu se révèle de Genèse 1:1. Dieu créa les cieux et la terre jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Oui, bien Seigneur Jésus. Et tous les versets et tous les chapitres entre nous parlent de Dieu du Jésus-Christ. Et si Esaïe a vu Dieu sur ce trône, ben nous aussi nous voyons Dieu dans les pages de notre Bible. Et nous avons ce privilège extraordinaire d'avoir cette Bible entre les mains. Savez-vous qu'aujourd'hui, et vous en entendez parler, les chrétiens sont persécutés dans le monde. Surtout en ce moment, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, vous entendez parler de ces chrétiens persécutés. Il paraît, là j'ai entendu cette semaine, peut-être que vous l'avez entendu aussi, il paraît que à Mossoul, en Irak, les militants, ils ont détruit, soi-disant, le tombe de Jonas. Vous savez, ce qui paraît être le tombe de Jonas, et là, depuis très, très longtemps, et là, ils ont explosé. Depuis, juste parce que c'était lié aux chrétiens, ils ont explosé. Jésus a un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors ici, il paraît que ce ne soit pas le temple à Jérusalem dont il est question, parce que le temple à Jérusalem n'avait jamais de trône. C'était uniquement pour les sacrifices pour venir vers Dieu. Et du coup, il est probable que ici, Dieu donne à Isaïe une vision, en fait, de ce qui se passe au ciel. Et il voit ce trône, et la première chose qu'il voit, c'est bien sûr Dieu. Et puis, il voit tout simplement les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Pour commencer à nous donner une idée de la grandeur de Dieu. Comme je l'avais dit à Salomon quelques centaines d'années auparavant, qui suis-je pour, Salomon qui dit à Dieu, qui suis-je pour bâtir une maison pour Dieu? Les cieux et les cieux, les cieux, donc c'est leur expression pour dire en fait l'univers, ne peuvent pas contenir Dieu. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, dit Salomon. Et pourtant, Dieu a consenti d'habiter parmi les hommes. Mais Dieu est tellement grand. Et ça devrait, ici, Isaïe voit les pans de la robe de Dieu qui remplit le temple. Et puis, Isaïe, qui a cette vision, commence à promener les regards. Il regarde un peu autour, et qu'est-ce qu'il voit? Bien sûr, il voit ces êtres angéliques, ces créatures célestes, les séraphins. Donc, la première et unique fois qu'on voit cette expression dans la Bible, c'est peut-être ces êtres vivants dont on va parler, Ézéchiel et puis également Jean, peut-être, mais on n'est pas sûr. Une fois arrivé au ciel, on le saura et puis on saura exactement de quoi il est question. Mais ici, c'est ces anges qui sont là et qui étaient autour de Dieu, au-dessus. Il les décrit en verset 2 avec leurs ailes, à transformer ses ailes, donc ses six ailes. Et ils sont là devant Dieu. Et en effet, ils volent à la fin de verset 2. Et il paraît que leur tâche principale, peut-être pas leur tâche unique, mais leur tâche principale, c'était tout simplement de louer Dieu. Il y a des anges qui sont au service de Dieu pour accomplir des missions spécifiques, ici sur terre et autres. Mais ici, il paraît que ces anges, spécifiquement notre tâche principale, est de louer Dieu. Verset 3. Et prier l'un à l'autre et disait saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et lorsqu'on voit que ici, verset 3, il priait l'un à l'autre, il ne chuchotait pas. Ce n'était pas tout bas, tout doux, pour que personne d'autre ne l'entende. Non. Et ils criaient les uns aux autres. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toutefois, au verset 4, nous voyons le résultat de cela. Les portes furent ébranlées. Le temple tremblait. Et même si tous ici, nous le mettions dans ce sens-là, à crier, à faire bruit, je suis convaincu que nous ne pourrions pas faire trembler ou bouger ce bâtiment. Non, pas possible. Et pourtant, on voit l'effet de ce que disent les anges, verset 4, c'était ébranlé, que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu, mais non, il y a des gens qui ne le glorifient pas. Il y a des gens qui se sont éloignés de lui. Et pourtant, ces anges disent, la terre est remplie. Non pas elle sera, non pas elle était, mais la terre est remplie de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Et là où est Dieu, bien sûr, sera sa gloire. Et combien il est triste et malheureux que les hommes ne reconnaissent pas la gloire de Dieu aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas que la gloire de Dieu se manifeste aujourd'hui partout. Nous entendons parler des choses qui nous attristent. On le dit, ces persécutions des chrétiens au Moyen-Orient en ce moment, et puis dans notre pays également. Et aussi, nous entendons parler de ces drames, ces accidents, cet avion qui s'est écrasé cette semaine en revenant de Burkina Faso. L'avion a abattu en Ukraine il y a quelques semaines. Cet avion disparu dans l'océan Indien. D'autres drames dont nous entendons parler, les gens qui souffrent de la maladie, de la faim. Les gens qui habitent dans les pays qui sont en guerre. Nous entendons tous parler de toutes ces choses. Et si nous ne faisons pas attention, nous perdons de vue que la gloire de Dieu remplit toute la terre. Et peut-être nous commençons à le dire, oui et non, comme un bon moment. Oui, mais pas tout à fait. Et pourtant, il faut rester bien convaincu de ceci, de la gloire de Dieu remplit la terre. Parce que Dieu est partout. Et Dieu ne reste pas indifférent à toutes ces choses. Les hommes peuvent rester indifférents. Ça se passe le voir. Ça ne nous touche pas vraiment. Ok, ça nous attriste pendant un certain temps, mais après, on passe à autre chose. Mais Dieu ne reste pas indifférent. Et ici, il montre à la fois son contrôle, mais aussi son soin pour la terre. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et même si il connaît les Judas, sont éloignés de Dieu. Ben, Dieu s'occupait toujours d'eux. Dieu prenait toujours soin d'eux. Il voulait qu'ils reviennent à lui. Et on voit, verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Cette réaction, ce résultat de la louange et de l'adoration envers Dieu et ses anges, Ésaïe voit cela. Et puis, il est pris par cela. Et qu'est-ce qui sort de sa bouche? Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un arbre dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et Ésaïe reconnaît la méchanceté de son propre cœur. Malgré ce qu'il faisait déjà pour Dieu, parce qu'il travaillait déjà pour Dieu, comme il dit, il était prophète, il a porté le message de Dieu. Malgré cela, malgré sa vie de tous les jours, malgré ses meilleurs efforts pour Dieu, il a reconnu que ce n'était pas assez. Il a reconnu qu'il était influencé par le monde méchant qui l'entourait. Les gens méchants, les gens éloignés de Dieu. Et il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Pourquoi des lèvres impures? Ben parce que ce qu'on dit vient du cœur. Et là, il a reconnu. Et il dit, je suis, je se souvenir des années qui a eu cette pensée et cette bonne réaction. Ben, c'est Dieu qui est roi. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Il nous faut avoir cette pensée. Puis verset 6, bien sûr, la Séraphin voilà vers moi, tenant à la main une pierre pendante qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Donc, reste de me mettre à la place des ailes. Je viens de voir cette vision de Dieu sur son trône, sa grandeur, sa sainteté. Je me reconnais comme pécheur, je reconnais mes fautes et tout. Et je suis là, je suis bouleversé par tout ce que je vois. Et puis, il y a un de ces anges qui commence à voler vers ma main, le fait qu'il vole, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et puis, il est là, avec ses pincettes, ce chameau pardon, ça va être. Alors, quelqu'un vient vers vous avec soit un bâton en flamme ou même du charbon qui est encore rouge, vous savez, là, quelle est votre première réaction? Est-ce que vous allez vers cette personne? Est-ce que vous allez essayer de vous approcher? Non, vous allez vous éloigner. Quand il y a le feu, ben, on s'éloigne, n'est-ce pas? Et ici, cet ange qui prend ce charbon, ce qu'on appelle une pierre ardente ici, mais c'était en fait du charbon de l'autel, il vient vers Ésaïe. Bon, Ésaïe est resté sur place, mais je suis certain que c'était malgré lui. Parce que là, cet ange qui arrive, on aurait sa première réaction, c'est serait de prendre quelque temps en arrière, à commencer à s'éloigner. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ben, ça va faire mal. Et verset 7, il en touche ma bouche et dit ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Ici, donc, une image de la purification qui vient à travers la confession de ses péchés. C'est une image de ce que Jésus-Christ allait faire par la suite. Et ici, ce charbon qui touche les lèvres d'Ésaïe, je suis certain qu'au début ça faisait mal. Mais il fallait passer par ce processus de purification. Mais purification pourquoi? Ésaïe n'était pas un grand pécheur. Ésaïe était quand même un homme de Dieu. Ésaïe était quelqu'un qui prophétisait. Ésaïe était quelqu'un qui plus ou moins suivait Dieu. Pourquoi la purification pour lui? Ben, encore une fois, parce qu'il a reconnu qu'il n'était pas parfait. Il y avait du péché dans sa vie. Et même s'il n'était pas un grand pécheur, même s'il pouvait pointer du doigt et dire oui, mais celui-là, ben, il est comme moi. Mais Dieu, vous avez vu ce qu'il lui a dit? Dieu, tu as vu ce qu'il a dit, ce qu'il a fait? Mais ses pensées étaient très loin de l'esprit d'Ésaïe. Il ne pensait pas aux autres, il pensait à lui-même. Et jusque dans le moindre détail, Dieu lui a montré, non, tu n'es pas parfait, tu dois passer par cette purification. Et dans notre vie, peut-être que nous pouvons le séduire un peu et dire, c'est vrai que nous ne sommes pas aussi mauvais que le monde. Nous ne tombons pas dans les mêmes péchés du monde. Non mais Seigneur, tu vois, je ne soutiens pas l'avortement. Je ne soutiens pas les mariages homosexuels. Je ne soutiens pas les arts autochtonistes. Je ne vais pas dans tel ou tel endroit. Je ne regarde pas tel ou tel chose. Je ne vois pas. Je ne dis pas tel ou tel mot. Ok, très bien, mais notre vie est-elle parfaite? Sommes-nous aussi proches de Dieu que nous pouvons l'être? Avons-nous besoin de purification? Oui. La réponse doit toujours être oui à cette question. Une purification continuelle que nous appelons la sanctification. Nous approcher de Dieu, et malgré tout ce que Ésaïe faisait pour Dieu, malgré, entre guillemets, sa bonne vie, il lui fallait passer par cela. Et nous aussi. Les gens peuvent dire, on est plutôt bien. Vous avez plutôt une bonne vie, c'est très bien. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Dieu ne nous appelle pas simplement à une bonne vie. Non, il nous appelle à une vie de sanctification. Et pour cette vie de aujourd'hui, il ne faut pas 50 ce processus de purification, s'examiner. Voilà pourquoi Isaïe avait besoin de réévaluer sa vie. Il pouvait se dire assez bien. Mais aux yeux de Dieu, ce n'était pas suffisant. Et sommes-nous dans cette catégorie? Peut-être. Peut-être qu'il faut réévaluer sa vie. Et dire oui, il y a des choses qui vont être enlevées. Peut-être que ça va faire mal. Et il le faut. Les sacrifices, oui, enlever quelque chose de sa vie, remplacer par une autre. Oui, en tant que chrétien, toujours, nous devrions faire ça. Un examen et une réévaluation constante. Et là, verset 8, après tout ce qu'il vient de voir, tout ce qui vient de lui arriver, sûrement dans l'espace de peut-être quelques minutes, ça s'est assez rapidement passé. Là, il entend la voix de Dieu. C'est la première fois dans cet épisode, dans cet incident, où Isaïe entend la voix de Dieu. Jusque-là, il avait vu Dieu, il avait entendu les anges, il avait eu cette purification, et là, il entend la voix de Dieu. Parce que maintenant, il est prêt. Dieu aurait pu lui parler avant, mais cela n'aurait pas été efficace. Maintenant, Isaïe est prêt. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? D'ailleurs, sur le panneau porte annonce, il y a cette affiche donc, de l'Institut biblique, et là, vous voyez, qui enverrai-je? Dieu pose cette question en sachant que Isaïe écoute ça. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La réponse sous-entendue, c'est bah, pour le moment, il n'y a personne. Pour le moment, il n'y a personne que je peux envoyer. On peut entendre Dieu dire cela. Qui marchera pour nous? Encore une fois, un autre exemple de cet aspect de la Trinité. Dieu, une personne, mais qui se présente sous trois formes différentes, dit qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et à cela, sans hésitation, sans question, sans rien du tout, Isaïe dit, me voici l'envoi. La réponse d'Isaïe est extraordinaire. Et je ne sais pas si nous mesurons toute l'étendue de ce que Isaïe dit ici. Me voici envoi-moi. Déjà, me voici. Il était prêt maintenant, parce que Dieu l'a emmené à travers ce processus de réévaluation et de purification, ben, il est prêt maintenant à répondre, me voici. Non pas avec ses propres mérites, mais avec les mérites de Dieu. Non pas parce que lui, il avait voulu, mais parce que Dieu a appelé. Mais il dit, j'irai. J'irai. Me voici. Envoie-moi. Mais envoie-moi où? Isaïe aurait pu penser peut-être que j'irai vers un autre pays. Peut-être que j'irai vers d'autres gens. Mais non, Dieu va l'envoyer vers son propre peuple. Et en attendant qu'il irait vers son propre peuple, bah, Isaïe s'est dit, ah ouais, c'est chouette, je n'aurai pas besoin d'aller très loin. Ce sont des gens que je connais déjà. Je leur ai déjà parlé, pas de problème. Et verset 9. Isaïe ne sait pas ce qui vient. Nous le savons. Isaïe ne sait pas ce qui vient. Et pourtant, il a déjà dit oui. Il ne peut pas revenir en arrière en disant « Ah, mais je ne savais pas que j'allais devoir faire ça. Mais non, Seigneur, là, c'est trop dur. » Non, 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 non. Il continue. Et verset 9, Dieu dit « Va. » Très bien, ok. « Dis à ce peuple, vous entendrez, très bien, parce que Isaïe avait annoncé, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Rends insensible la peur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, et bouffez les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, et ne ce que Dieu dit à Esaïe. Et comme j'ai dit, Esaïe s'était déjà proposé. Il a déjà répondu au oui. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas dire, ah, ça n'a pas été Dieu. Ah, c'est parce que je pensais. C'est pas pour ça que je m'étais engagé, Seigneur. Non, je veux autre chose. Non, Esaïe n'a pas dit ça. Il va poser la question, verset 11. Jusqu'à quand, Seigneur, question légitime. Ça va être pendant un certain temps, n'est-ce pas? Oui, mais pendant longtemps. Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être là pour les flammes. Mais comme les ramades et le chêne conservent leur courroux quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Et Dieu dit en substance, jusqu'à ce que j'ai tout vécu. Et ici, il parle de Babyloniens qui allaient venir sur Jérusalem, sur Juda, qui allaient mettre le feu, qui allaient tout détruire, allaient emmener en captivité une grande partie du peuple. Et la tâche d'Esaïe, c'était d'annoncer le message de Dieu alors que les gens n'écoutaient pas. Alors qu'il n'y avait même pas d'espérance que ces gens se convertissent. Et on pourrait se dire, mais c'est inutile, à quoi bon? À quelle fin? Et nous pouvons répondre parce que Dieu l'a dit. Nous sommes les obligés de toujours comprendre pourquoi Dieu nous donne telle ou telle mission, telle ou telle tâche. Non. Quel est notre devoir? Notre devoir, c'est d'obéir. Et Dieu nous envoie pour apporter son message, son message de paix, de pardon, de réconciliation en Jésus-Christ. Et gloire à Dieu, Dieu dit que la mention est grande. Dieu ne nous dit pas, comme Esaïe, bah, les gens ils n'entendront pas, ils n'écouteront pas, ils ne se convertiront pas. Non, Dieu dit que la moisson est grande aujourd'hui. Mais même si la moisson n'était pas grande, même si nous n'avions aucune espérance de fruit, Dieu lui dit quand même, allez, de porter ce message. Mais avant d'arriver à avoir cette attitude-là, avec Esaïe, il lui fallait passer par cette réévaluation et cette purification. Parce que sans cela, il ne serait jamais capable d'avoir dit oui, on voit moi. Peu importe la tâche, peu importe. Une seule chose que je sais, c'est que je veux servir Dieu. Et même s'il n'y a pas de fruit, même si ce sera dur, même si je serai rejeté, même si je ne comprends pas tout à fait, je comprends une chose, Dieu m'a appelé à faire cela. Et ma vie tranquille, ordinaire, rien d'exceptionnel, par la grâce de Dieu, peut devenir quelque chose d'extraordinaire pour sa gloire. Et voilà pourquoi il nous faut revenir à la parole de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons nous influence veut nous faire vivre une vie plutôt dans les frères et sœurs. Parce que Dieu a une grande mission pour nous aujourd'hui. Il veut faire des choses extraordinaires dans la vie individuelle de chacun. Et puis il veut faire des choses extraordinaires dans notre Église. Je loue le Seigneur pour ce qui se passe dans cette Église. Et ce qui s'est passé depuis le 20 ans que cette Église existe. Et je suis convaincu que Dieu n'a pas fini avec cette Église. Et il veut que nous allions encore plus loin. Mais cela sera impossible si tous ensemble nous ne prenons pas cet engagement de nous évaluer et puis de nous mettre en conformité avec la parole de Dieu. Nous avons tous des progrès à faire. Et combien il serait facile de dire oui, on n'est pas aussi mauvais, aussi pire que le monde. Ça, c'est vrai. Mais le monde n'est pas notre niveau. On ne s'évalue pas au monde. On ne s'évalue pas quant à d'autres églises. Il y a des églises ici en France qui font plus que nous, d'autres qui font moins, d'autres qui font différemment que nous. Et alors, quel est notre niveau? Quelle est notre règle? Ben, c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut se servir de nous. Dieu veut faire des choses extraordinaires ici. Sommes-nous prêts à faire cette évaluation dans notre vie? Sommes-nous prêts à passer par cette purification pour enlever, pour remplacer? C'est un choix individuel que chacun doit faire. Dieu nous appelle à le faire par sa grâce. Ce n'est pas nous qui le faisons nous-mêmes. Non, nous laissons Dieu travailler en nous. Ce n'est pas Esaïe qui s'est purifié lui-même. Non, c'était Dieu prévié de cet ange qui a purifié. Et nous, aujourd'hui, quelle est notre réponse? Si Dieu devait dire à notre Église, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Notre Église pourrait-elle entre ensemble répondre, oui, Seigneur, envoie-nous, serre-toi-nous. Tout le monde aurait-il cette optique ou serait-ce uniquement quelques-uns? Dieu veut nous tous. Il nous appelle tous. Alors, sachons écouter sa voix, sachons évaluer et réévaluer notre vie. Et puis, soyons prêts pour passer par cette purification qui vient de la parole de Dieu, qui vient de Dieu lui-même. Et que Dieu puisse se servir de nous. Prenons ce choix aujourd'hui et renouvelons cette foi chaque jour de notre vie. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons nous inspirer de l'exemple d'Esaïe. Seigneur, donne-nous une vision plus grande de toi-même et que tu nous changes, Seigneur, que chacun puisse prendre cette décision aujourd'hui de s'engager pour toi, de faire ta volonté coûte que coûte, Seigneur. Tu as un projet